Bienvenue dans notre podcast, Les interviews impactantes. Par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact. Animé par Bertrand Viala, responsable stratégie et développement. Dans cet épisode, nous sommes accueillis à Lyon par Nathalie Holnet, directrice de la Fondation Apicil, reconnue d'utilité publique. Créée en 2004 par le groupe de protection sociale du même nom, la Fondation Apicil permet l'émergence de programmes pour améliorer la prise en charge de la douleur en France.
Bonjour, je suis Bertrand Viala, responsable stratégie et développement de la société Anéol, et je suis aujourd'hui à Lyon pour recevoir dans notre podcast Nathalie Holnet, directrice de la Fondation Apicil. Bonjour Nathalie.
Bonjour Bertrand.
Nathalie, alors la Fondation Apicil est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour principal objet le traitement de la douleur physique et psychique.
Effectivement, la lutte contre la douleur physique et psychique à tous les âges de la vie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les différentes tenants aboutissants de ce que c'est qu'une fondation reconnue d'utilité publique ? Tous les gens ne savent pas forcément faire la distinguo avec d'autres types de structures.
Oui, je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est assez complexe en fait. Une fondation et une fondation en particulier reconnue d'utilité publique dans la mesure où il y a 8 types différents de fondations. Et donc, le groupe Apicil, lorsqu'il a créé la fondation, il a décidé de faire toutes les démarches nécessaires pour que cette fondation soit reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire qu'elle est créée pour une durée illimitée. C'est la principale caractéristique. Et cette fondation est donc dotée d'une, ce qu'on appelle la dotation initiale, ce sont des moyens financiers qui lui permettent une certaine autonomie et une durée de vie longue, puisque créée pour une durée illimitée, c'est-à-dire que la dotation initiale doit permettre de financer, de payer tous les frais généraux de la fondation, et ainsi la fondation a son autonomie.
Alors, la fondation a été créée en mars 2004, si je ne me trompe pas, et c'est une fondation qui a quand même comme objectif de travailler énormément avec le terrain sur les questions un peu sensibles que vous avez évoquées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la philosophie de travail et le mode de fonctionnement de la fondation ?
Oui, je vais vous parler du mode de fonctionnement. Juste avant de répondre à votre question, je voulais dire ce qu'était la douleur. Oui. La douleur, c'est à la fois une sensation et une émotion. Et je pense que c'est important d'avoir cela en tête parce que ça va guider notre façon de travailler à la Fondation. Toujours penser que la douleur, c'est une sensation et une émotion. Alors ensuite, la question que vous m'avez posée, c'était sur...
C'était sur le mode de fonctionnement un peu, oui. Puisqu'on est sur quelque chose qui est sur du terrain. On n'est pas dans une fondation qui va effectuer uniquement des recherches. On est sur l'apport de solutions concrètes, d'où une pratique en fait de votre activité qui est extrêmement tangible.
Oui, alors en tant que fondation reconnue d'utilité publique, nous avons un fonctionnement qui est précisé par nos statuts. Les statuts ont été contrôlés et visés par le Conseil d'État. C'est l'autorité la plus importante dans notre pays. Et donc, on ne change pas ces statuts aussi facilement que cela. Et donc, dans les statuts, il est bien précisé que le fonctionnement de la Fondation Apicil se base sur les avis d'un conseil scientifique composé de 15 personnes maximum et d'un conseil d'administration qui, lui, comporte 12 personnes, 12 membres dans ce conseil d'administration. Les membres du conseil scientifique sont des personnes qui travaillent, qui sont des personnes professionnels de la santé, une majorité de médecins composent ce conseil scientifique, des médecins qui appartiennent à des domaines très variés, de la pédiatrie à la gériatrie, soins palliatifs, en passant par l'oncologie, des personnes qui sont anesthésistes, etc. Et puis, nous avons souhaité... faire participer à ce conseil scientifique un psychologue, une infirmière et un philosophe, puisque bien sûr nous allons aborder des questions éthiques quand il s'agit de la douleur.
Alors le choix du sujet de la douleur est quand même un choix intéressant. Il y a très peu de structures qui prennent en charge cette question particulière sur autant d'angles, je dirais, multidimensionnels tels que vous les présentez. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu l'histoire de pourquoi une fondation sur ces questions-là et comment peut-être, d'un point de vue humain, ça a été envisagé lorsque la création de cette fondation a eu lieu donc dans le groupe ?
En fait, quand la fondation a été créée, ce sont des administrateurs et des salariés du groupe Apicil qui sont à l'origine de la création de la fondation. Et le choix de ce sujet repose sur deux raisons principales. Alors la première, ce sont les métiers du groupe Apicil, puisqu'il y a 4 métiers qui sont la santé, l'épargne, la retraite et la prévoyance. Et donc le sujet de la douleur est un sujet très intemporel et qui concerne tout le monde, comme les métiers du groupe. Et puis des salariés et des administrateurs qui étaient eux-mêmes confrontés à cette difficulté de prise en charge de la douleur pour leurs proches ou eux-mêmes et qui étaient donc très motivés. Et il y a encore, j'aurais pu dire, une troisième raison qui est très sociétale, c'est-à-dire que la Fondation, vous l'avez dit, a été créée en mars 2004, après plusieurs années de tractations pour qu'elle existe. Et à ce moment-là, il y avait les premiers plans douleurs qui apparaissaient au niveau du ministère de la Santé. Ces plans douleurs dont on peut regretter qu'ils n'aient pas été poursuivis, puisque le dernier date de 2010 et que nous espérons vraiment qu'un nouveau plan douleur apparaisse.
Donc vous comblez en fait un besoin réel en fait au niveau à la fois, je dirais, des patients, également des soignants. Vous m'avez parlé à un moment dans un autre entretien d'un trio gagnant. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner la définition ? Parce que je pense que compte tenu du contexte social sur le domaine santé publique, c'est quelque chose qui pourra faire écho à beaucoup de gens en écoute de notre podcast.
Alors oui, le trio gagnant. J'aime bien utiliser cette expression pour qu'on s'en souvienne. Le trio gagnant, pour moi, c'est vraiment se dire que pour améliorer la prise en charge de la douleur, et là je parle de la douleur chronique, hein, celle qui dure, ça fait des mois que des soignants essayent de trouver des solutions et le patient est toujours douloureux. Il me semble très important d'associer à la fois, bien sûr, le patient, les proches aidants et les soignants. Et on doit prendre en compte l'état d'esprit, l'état émotionnel peut-être des soignants. Et on se rend compte aujourd'hui comme les soignants sont en difficulté. Et donc, prendre en compte leur état émotionnel, savoir s'il y a des proches aidants qui peuvent aussi être informés. Parce que je pense que cette information, on ne peut pas passer outre. Elle est absolument nécessaire. Je me dis que quand un patient douloureux chronique en permanence se plaint parce qu'il a mal, quelle est l'attitude à avoir en tant qu'accompagnant ? Est-ce qu'on doit compatir ? Est-ce qu'on doit l'envoyer promener ? Ou est-ce qu'on doit essayer de trouver des solutions ? Voilà. Et savoir comment se positionner par rapport à celui qu'on aide, qu'on accompagne et qu'on aime, je pense que c'est important et qu'aujourd'hui, on néglige trop souvent la place des proches dans la douleur chronique.
Alors justement, dans le rôle d'une fondation, on trouve des solutions. C'est un peu l'idée. Là, on a un constat en fait basé sur vos recherches, basé sur l'expérience que vous avez vous-même en tant que femme de terrain, puisqu'on va en parler un petit peu aussi. Vous avez vous-même été actrice en fait de tous ces sujets-là. Quels sont les thérapeutiques ou les sujets de recherche que vous privilégiez dans vos appels à projets en priorité en ce moment ? Quelle est un peu la tendance pour répondre à ces besoins à la fois émotionnels, physiques et psychiques ?
Alors la tendance. Bon, je ne sais pas si je peux parler de tendance, je ne suis pas Paris Match. Alors, non, les sujets qui nous parviennent actuellement sont des sujets sur les conséquences du Covid long. Et en fait, les douleurs que cela peut provoquer, on découvre qu'il y a énormément de conséquences multiples et variées du Covid pour certaines personnes. Pour certains, il n'y a pas de conséquences à long terme, mais pour d'autres, oui, il y a des conséquences importantes. Donc les Covid longs, les douleurs des femmes, on parle beaucoup en ce moment de la fibromyalgie notamment. C'est une pathologie qui touche principalement les femmes et qui provoque des douleurs chroniques importantes. Voilà. Donc il y a des thématiques qui sont vraiment conjoncturelles, mais également des thématiques récurrentes, la douleur des personnes âgées, dans les EHPAD notamment, mais pas que, hein, les douleurs des personnes âgées, la douleur des enfants, la douleur des prématurés. On sait qu'on mémorise la douleur, vous savez, on mémorise toujours la douleur. Et donc, le corps mémorise la douleur. Même quand on est anesthésié et qu'on subit des interventions, on peut mémoriser une partie de la douleur. Et dans un produit anesthésiant, je vais le dire très simplement, mais il y a trois composants. Il y a un composant qui va permettre de dormir, il y a un composant qui va permettre de rendre les muscles plus mous, et il y a un autre composant qui est le soulagement de la douleur. Et donc aujourd'hui, on sait que ce dosage de la prise en charge de la douleur pendant une anesthésie est extrêmement important. Alors pour cela, il y a de nouveaux appareils qui arrivent sur le marché pour justement mesurer pendant l'intervention chirurgicale si la douleur du patient est bien soulagée. Et donc on a soutenu ce type de projet, on en a accompagné pour mesurer, pour des projets de recherche sur ce sujet-là, par exemple.
Alors je tiens à préciser également ce que vous aviez mentionné dans d'autres entretiens, c'est que le rôle de la Fondation est de donner des solutions complémentaires aux pratiques médicales actuelles. On n'est pas dans la médecine alternative, on est dans l'accompagnement de pratiques thérapeutiques existantes.
Merci Bertrand de le rappeler. Effectivement, la Fondation Apicil se positionne vraiment comme en complément des traitements habituels allopathiques. Et donc nous cherchons des réponses adaptées qui vont permettre de soulager, d'améliorer améliorer le vécu des patients douloureux chroniques, de leurs proches aussi et des soignants. Cela va se traduire par des techniques complémentaires. Par exemple, on va financer des formations pour le personnel à la sophrologie, la relaxation, l'hypnose, la méditation. On va apporter des réponses aussi... parce que je ne vous l'ai pas dit, mais nous répondons toujours aux demandes du terrain. Tout à l'heure, vous aviez parlé du terrain. Effectivement, on fait remonter du terrain les demandes. Nous ne proposons rien. Nous attendons que les soignants nous sollicitent. Alors, les médecins, les infirmières, les kinés, les aides-soignantes, enfin, les chercheurs nous sollicitent en disant, voilà, moi, j'ai une idée. C'est une idée un peu nouvelle pour améliorer la prise en charge des patients. J'ai envie d'être formé à la sophro, à l'hypnose ou autre technique, ou j'ai besoin d'avoir dans mon service quelqu'un qui pratique de l'art-thérapie. Ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être quelqu'un qui va faire de la socio-esthétique. Alors, je pense particulièrement dans le domaine de la cancérologie, permettre à une personne, ou de soins palliatifs d'ailleurs, permettre à des personnes qui sont hospitalisées ou qui ont des soins qui sont très lourds, qui ont des conséquences physiques, de garder une bonne estime d'eux-mêmes. Ça contribue vraiment à l'amélioration de la douleur psychique.
Alors, c'est intéressant parce que là, effectivement, on a, dans les exemples que vous donnez, une vision à 360 degrés de ce que sont toutes les dimensions de la douleur sociale, psychique. On a les dimensions de formation, les dimensions de R&D. Du coup, ça m'amène à poser la question sur la façon dont ces projets sont sélectionnés, la façon dont ces projets sont soumis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il y a deux modes de fonctionnement, ce que j'avais compris. Je vous laisserai nous expliquer un peu plus et voir un petit peu comment les modes de sélection sont proposés.
Alors, la sélection des projets, nous recevons bien sûr de nombreuses demandes de financement et nous travaillons avec un conseil scientifique qui va étudier les demandes et qui se réunira. Et pour chaque dossier, il y aura une discussion. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on reçoit tout au long de l'année des demandes de subventions auxquelles nous nous attachons à donner des réponses dans un délai assez bref, autant que possible, pour que les porteurs de projets se sentent soutenus. Nous, on est là pour les accompagner, on est au service des porteurs de projets, on est là pour leur donner des réponses concrètes, leur dire si leur projet tient la route et savoir si ce projet va pouvoir être accompagné par la Fondation Apicil de façon très concrète, par des moyens financiers et un accompagnement qui n'est pas que financier, qui va être également d'apporter une aide sur la communication, mais on en reparlera, je pense. Donc, on fait des appels à projets. Alors, il y a tout au long de l'année la possibilité de nous envoyer des demandes de financement, mais également des appels à projets ciblés. Tous les deux ans, on lance un appel à projet sur une thématique particulière. Alors, par exemple, on a fait la douleur aux urgences, en situation d'urgence, la douleur des personnes âgées, la douleur de certaines pathologies, comme l'arthrose, par exemple. Voilà. Et donc, on va constituer des jurys spécialisés qui vont étudier les demandes de financement pour pouvoir donner un avis vraiment éclairé de personnes qui sont particulièrement compétentes et qui ont des regards très transverses sur ces différents sujets. Et ensuite, les projets sont soumis une nouvelle fois à l'avis du conseil scientifique de la Fondation, puis le conseil d'administration également est informé du financement de ces projets.
Alors, on imagine que vu la dimension sociale et médicale de ce que vous traitez, vous devez recevoir un nombre faramineux de projets. Alors, on ne va pas vous demander combien vous en recevez tous les mois ou toutes les semaines, j'imagine que c'est énorme, après en fonction des sujets. Mais actuellement, vous financez combien de projets ?
835, hein, pour être précise, 835 projets financés. Dans tous les CHU français, nous ont, CHU ou CHRU, nous ont sollicité et nous avons répondu de façon positive. Et puis de nombreux centres hospitaliers également. Et on va accompagner également des projets dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ou des personnes très âgées, dans les EHPAD par exemple. Voilà. L'objectif, c'est toujours d'accompagner des structures à but non lucratif. En tant que fondation, nous nous devons d'accompagner des projets portés par des associations ou des établissements publics.
Alors, dans les différents critères, qu'est-ce que pour la Fondation Apicil un bon projet ? Parce qu'on est d'accord, on est sur du long terme, on est sur du terrain, on est sur du concret. Donc, au-delà de la pertinence sur les questions de la douleur sous ces différentes dimensions, quels sont les critères, je dirais, pour donner un terme un petit peu marketing et pas très élégant, les KPIs, pour revenir sur ce terme un peu décrié à raison, sur lesquels, je dirais, les fondamentaux fondamentaux d'un projet sont évalués lorsque ça passe entre vos mains et celles de vos collaborateurs et de vos conseillers?
Les membres du conseil scientifique et les opérationnels de la fondation ont ensemble réalisé une grille de critères. Par exemple, bien sûr, le premier critère, c'est est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que ça va apporter quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui est proposé aux patients, à ses proches et aux soignants ? Et puis, on va réfléchir aussi à la question de l'essaimage et de la pérennité. Ce qui est important, c'est qu'un projet, un bon projet, puisse être dupliqué par ailleurs et qu'il perdure. Et donc, on va mener pour cela aussi des actions. Ça, ce sont vraiment des questions très, très importantes dans le choix des projets. Évidemment, je passe les aspects purement scientifiques et, par exemple, les membres du conseil scientifique vont étudier dans un projet de recherche le protocole. Et donc, il faut que le protocole soit solide et qu'il permette d'apporter des preuves. Voilà, ça, ce sont des critères importants, mais voilà, je passe assez rapidement là-dessus.
Merci beaucoup. Alors, donc, avis à bon entendeur et bonne entendrice sur la façon de traiter ces projets-là. Moi, j'ai une question particulière, parce qu'on vient, nous, d'un secteur numérique. Moi-même, alors, je ne suis pas informaticien, mais j'ai une communauté de jeux vidéo et j'ai rencontré pas mal de gens qui m'expliquaient que dans le traitement de la douleur, notamment pour les personnes âgées, le gaming, le jeu vidéo, était un vecteur important peut-être pour soigner les douleurs psychiques. Alors, je ne vais pas vous demander si vous jouez aux jeux vidéo ou pas. Par contre, est-ce que du coup, dans cette question-là, dans les projets que vous recevez, vous avez quelques projets qui intègrent des dimensions numériques à la façon de prendre en charge la douleur ?
Oui. On a pas mal de demandes en ce moment pour, par exemple, des casques de réalité virtuelle. Mmh. Ça, c'est vraiment un sujet qui est fréquent. Alors, on ne voudrait pas devenir le financeur des casques de réalité virtuelle pour l'ensemble des établissements français. On finance rarement du matériel sec. En fait, on finance du matériel dans le cadre de projets de recherche. Donc, ça peut participer, voilà, mieux comprendre les effets de ces outils, ces nouveaux outils. Mais bien sûr, on pense que c'est important aussi d'être ouvert là-dessus. Mais quand même, je dois avouer que en tant que responsable d'une fondation, c'est l'humain avant tout qui nous importe. Et par exemple, on est sollicité pour mettre à disposition des patients des programmes qui sont enregistrés de musique. Eh bien, je suis pas sûre que ce soit une priorité pour nous. Moi, ma priorité, vraiment, et les membres du conseil scientifique aussi, c'est de faire venir et intervenir des personnes, des humains qui viennent à la rencontre des humains. Et donc, des personnes qui vont venir dans la chambre des patients ou bien qui vont proposer des activités en groupe, hein, mais vraiment qui ont cette dimension de présence à l'autre, de qualité de présence et de relation. Donc oui au numérique, oui aux techniques, oui, mais point trop d'infos.
Oui, comme toute chose, en fait, mesure est bon ou est bonne. Enfin, si on reprend un peu certains proverbes. En tout cas, Nathalie Olnet, merci. Nous allons conclure sur ce point-là, sur cette note optimiste. Et surtout, on retient le message que c'est l'humain qui compte dans toutes ces questions-là. On pourrait parler encore des heures. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire prochainement. Il y a tellement de sujets passionnants. C'est un sujet universel, celui de la douleur. Et bien écoutez, on souhaite vraiment que les fondations Epicil puissent continuer à financer et à faire émerger de beaux projets qui nous concerne tous et nos proches. Merci encore, Nathalie.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci.
C'était les interviews impactantes par Anéol, votre expert en tactique digitale. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.anéol.com. À très bientôt.